Depuis novembre 2019, les nutritionnistes qui sont aussi des amis, Catherine Lefebvre et Bernard Lavallée, qu'on appelle aussi le nutritionniste urbain. Alors, tous les deux, ils animent le balado intitulé « On s'appelle et on déjeune », titre formidable, produit par Radio-Canada et réalisé par André Martineau. Et mars étant le mois de la nutrition, on s'est dit, ben parlons-en d'alimentation à travers ce balado. Catherine Lefebvre est avec nous. Bonjour, Catherine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On s'appelle et on déjeune, c'est arrivé comment? Ça a été quoi la source d'inspiration de ce projet-là?
Ah, c'est drôle, c'est une belle histoire en fait. C'est Bernard et moi, tout bonnement, on s'appelle très souvent dans la vie. On parle souvent d'alimentation, évidemment, et on avait toujours des super discussions vraiment intéressantes le matin très tôt. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne transformerait pas ça en balado? Justement, où on peut avoir des discussions ouvertes, un petit peu plus profondes sur l'alimentation ou des sujets, soit des sujets qu'on aborde peu ou des sujets très connus, mais les aborder sous un angle différent. Et c'est vraiment comme ça qu'est né le concept dont on s'appelle et on déjeune. Et là, ça fait, donc comme vous le disiez, depuis novembre 2019. Et donc là, l'aventure se poursuit.
Mais oui, vous arrivez...
On est toujours très heureux là, de recevoir des invités et de justement d'alimenter la discussion en nutrition.
Ça paraît aussi dans votre façon d'animer. Et on apprend tellement de choses. Catherine, vous dites à un moment donné dans un des épisodes que l'alimentation, ben, je pense que vous le dites à plusieurs reprises, c'est culturel, c'est social et c'est émotif. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là?
Bien, en fait, on discute beaucoup d'alimentation dans tous les médias. Hein. Tout le monde mange, donc forcément, ça intéresse un peu tout le monde. Et je trouve qu'on décortique beaucoup l'alimentation presque au niveau de la micro-analyse où on va s'intéresser à des ingrédients spécifiques, des vitamines, puis on met beaucoup, beaucoup l'accent là-dessus. Puis quand on prend un pas de recul et qu'on regarde un petit peu l'alimentation dans son ensemble, ce que ça devrait être ou les éléments dont on a... qu'on ne devrait jamais oublier, c'est l'aspect social et culturel, parce que ça va toujours, si on pense à qu'est-ce qui nous fait plaisir, des aliments réconfortants, c'est toujours des trucs, des recettes familiales ou des souvenirs de voyage ou des trucs qui sont propres à notre culture culinaire qui vont résonner le plus. Et ça, il ne faut jamais mettre ça de côté. Donc, je me permets de le rappeler souvent et aussi souvent que possible pour... revenir un peu à la base. J'ai l'impression qu'on a besoin de relaxer un peu par rapport à l'alimentation, par rapport à plein de choses, mais vraiment là, être plus conscient et plus bienveillant finalement en alimentation.
Oui, parce que c'est devenu presque compliqué s'alimenter. Mm-hmm. Il y a comme une sorte de pression. D'où ça vient ça?
Ben, je pense que ça vient en partie du fait qu'on en parle beaucoup. On est content d'avoir de la nouvelle information, que ce soit au niveau des études scientifiques, c'est super, l'avancement de la science et tout ça. Mais dans un des épisodes, justement, on s'intéresse aux grands titres en nutrition avec le chercheur Benoît Arsenault et on se dit, mais est-ce que toutes ces études-là sont pertinentes dans le grand public? Parce que parfois, c'est des études qui peuvent être intéressantes, qui peuvent donner des pistes à des chercheurs qui vont s'aventurer, qui vont aller plus loin, qui vont pousser la recherche. Mais pourtant, il y a souvent des résultats d'études qui se retrouvent dans les journaux, dans les magazines, qui ne sont pas très intéressants, mais le titre est tellement sensationnel qu'on se dit « Ah, mais c'est extraordinaire! » Mais au final, concrètement, qu'est-ce que ça change pour le consommateur? Ça ne change pas grand-chose. Et là, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup d'informations. On essaie d'être de bons citoyens, de bons consommateurs, de faire notre part, que ce soit pour la santé, pour l'environnement, quoi que ce soit. Mais on se met beaucoup de pression comme individu. Oui, ça peut être quelque chose de positif parce qu'on peut dire, oui, acheter, c'est voter, je fais ma part, un petit geste à la fois. Ça peut être très, très positif et tout ça. Sauf qu'on peut aussi rentrer dans une espèce d'obsession morale où là, ça devient, ça peut devenir aussi très, très négatif au point où on sent mal de manger certains aliments, où on développe une certaine forme d'éco-anxiété parce qu'on a gaspillé une demi-tomate. Donc, c'est encore une fois, l'idée de revenir un petit peu à la base, de retrouver une certaine forme d'équilibre, de dire, OK, moi, qu'est-ce que je suis capable de faire dans ma réalité? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes, on n'est pas tous dans la même situation socio-économique, mm-hmm. et c'est très important de se respecter là-dedans.
Et vous avez été élevé, vous le dites dans l'épisode sur l'alimentation intuitive, mm-hmm. Beau concept, vraiment un épisode à écouter. Bien, j'ai pas eu le temps de tout écouter là, parce que vous en êtes mm-hmm. presque à 40 épisodes, mais vous dites que vous avez été élevé dans une famille où il n'y avait jamais de restrictions alimentaires. C'est mon cas et je me sens très privilégiée, mais est-ce que c'est une façon de faire que justement vous encouragez, vous, dans les familles?
Absolument. Puis c'est maintenant que je le réalise parce que j'ai jamais... Je l'entends beaucoup, j'écoute beaucoup de conversations ou des questions des auditeurs qui me parlent de leur expérience, puis je me dis, mais c'est tellement loin de ma réalité, de mon environnement dans l'enfance. Et effectivement, ça joue beaucoup, ça, dans le futur, de ne pas avoir d'interdit alimentaire, puis cette notion de privation ou de se dire, si je ne me mets pas de limite, je vais manger n'importe quoi tout le temps. Mais ça, c'est justement un résultat de s'imposer des limites tout le temps, tout le temps, tout le temps, et des restrictions. Mm-hmm. Ça crée ce sentiment-là. Puis au final, quand on n'a pas de restrictions, ben on va aller naturellement vers des aliments qui nous font du bien. Et ça peut être des aliments qui vont nous nourrir d'un point de vue nutritionnel, là, point de vue santé physique, mais ça peut être aussi des aliments qui vont nous nourrir au point de vue émotif, parce que on mange, tu sais, le plaisir, c'est une émotion, puis c'est une belle émotion. Et ça se peut qu'on ait besoin de nourrir notre âme. T'sais, en ce moment, je pense que tout le monde vit beaucoup de stress à différents niveaux, qui se manifeste de différentes façons. Puis ça se peut que l'alimentation vienne nous aider dans ces moments-là. Puis ça peut être très, très bien. C'est la ligne est très mince entre je m'écoute et je me fais du bien,
ouais.
Ou tomber dans les troubles de conduite alimentaire où là on est plus dans une situation soit d'anorexie ou d'hyperphagie, boulimie, ces choses-là. Donc c'est très mince parce qu'on a une relation tordue. Généralement dans la population, on a une relation très tordue avec l'alimentation et c'est ça qu'on essaie d'explorer pour retrouver cette bienveillance, cette relation saine avec les aliments où justement on n'est pas dans la restriction.
Vous essayez de détordre cette manière de penser ou de faire. Donc, vous n'avez pas une approche moralisatrice, hein?
Pas du tout.
Non, c'est pas ça le but.
Ça n'a jamais été le but de toute ma pratique, mais je pense que, en fait, ce que je me rends compte beaucoup, puis ça c'est vraiment un processus qui est super intéressant, que le balado nous apporte beaucoup, c'est qu'on a une super belle communauté qui se crée petit à petit. Les gens nous écrivent beaucoup de questions, partagent des témoignages, et je me rends compte que même si, pour moi, l'information que j'ai pu transmettre dans ma carrière n'était pas moralisatrice, la façon que les gens perçoivent, quand on leur donne de l'information, pour moi, c'est de l'information presque neutre par rapport aux aliments ultra-transformés, par exemple. Pour moi, c'est neutre. C'est un fait. Bon, les aliments sont construits comme ça. Mm-hmm. Et oui, c'est très stimulant. Il y a plus de sucre, plus de sel et tout ça. Mais c'est pas dans une optique de « on devrait jamais en manger, puis ces aliments-là, c'est mal, puis on devrait se sentir coupable quand on en mange. » C'est pas du tout ça l'approche. Mais je me rends compte que ça peut être perçu comme ça chez les gens qui ont toujours baigné dans la restriction et les aliments bons ou mauvais, tout ça, ils vont automatiquement percevoir ça comme un interdit et donc ça va être beaucoup plus tentant. Donc c'est là on apprend aussi, on évolue puis on essaie d'adopter notre discours pour être le moins moralisateur possible et le plus doux en fait. Puis pour contribuer à, on travaille pas en clinique, là, on fait pas de consultation, mais à notre façon, on essaie de rétablir cette relation-là plus saine avec l'alimentation.
Donnez-nous des exemples de sujets que vous abordez dans votre balado. On s'appelle et on déjeune.
Ah, bien, on va vraiment dans tous les sens. Alors,
oui, peut-être.
On a parlé beaucoup d'alimentation intuitive et de grossophobie. On a fait quand même, je dirais, 3 épisodes là, assez consacrés à ces thèmes-là. Les troubles alimentaires pendant la pandémie, ça va un peu dans le même sens. On a parlé de cuisine avec Hélène Laurendeau. On a fait un autre épisode sur les livres de recettes,
oui,
avec Geneviève Ogleman. Ça, c'est très intéressant. On a parlé, de quoi on a parlé?
Les véganes.
Oui, on a parlé du véganisme avec Caroline Humard, on a parlé de gaspillage alimentaire avec Florence Léa Siri, on a parlé...
Les suppléments alimentaires.
Oui, absolument. On a aussi parlé d'appropriation culturelle en cuisine en janvier avec une résidente en psychiatrie qui s'intéresse beaucoup à tout le contexte culturel en cuisine. C'est super intéressant. Fille de restaurateur vietnamien.
Alors, j'ai l'impression que c'est un balado qui va durer éternellement parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'alimentation.
Et, on ne manque jamais de sujets. On a toujours une longue liste de sujets qui s'ajoutent.
Oui.
À chaque fois qu'on se fait des rencontres, de dire « OK, c'est quoi nos prochains sujets? » On regarde notre liste, puis entre-temps, il y a toujours d'autres sujets qui se sont ajoutés. C'est sûr qu'on essaie de suivre aussi. Des fois, ça va venir d'auditeurs hein, qui vont nous écrire des questions pour savoir « Ah oui, moi, je m'intéresse à ça. » Puis ça se retrouve souvent en épisode, en fait, ces interactions-là.
Bien, vous avez eu une bonne idée, Catherine et Bernard Lavallée, là, de sortir de la conversation téléphonique intime et puis de faire en sorte qu'on puisse vous écouter. En terminant, en 10 secondes, votre aliment préféré, votre aliment sain préféré et votre aliment transformé préféré.
Ah, ben je les mets comme presque dans la même catégorie, mais peut-être dans les légumes, je vais vous dire le poireau.
OK.
On peut penser que c'est un peu banal. Mais
et transformé.
Et transformer les chips.
Merci,
pas
merci.
Très transformé, mais les chips, c'est mes préférés.
On s'appelle et on déjeune. On écoute ça sur audio. Merci, Catherine Lefebvre.